Passagem de nível com Arthur Silva.
Passage à niveau, votre compagnie, c'est dimanche 21 avril jusqu'à 14h, émission, je rappelle, avec rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. On est le 21 avril et d'ici à 4 jours, ça sera le 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Donc une émission totalement dédiée à ce thème-là, très important, d'autant plus que nous tenons compte des résultats des dernières élections législatives au Portugal. Qu'est-ce qui se passe au Portugal? Mais pas seulement, mais enfin. Bon, déjà, on ira jusqu'à Nanterre, le 4 mai, inauguration de la place, 25 avril 1974. Et aujourd'hui, à Champigny-sur-Marne, dans le département 94, toute une journée, justement, pour célébrer le 25 avril. 25 avril également en grand, c'est le cas de le dire, à la FNAC Saint-Lazare, on parlera, et sans oublier qu'on ira même jusqu'en Allemagne, ni plus ni moins, et pour finir, concert, mais un concert avec un lien, bien entendu, avec le 25 avril. Avec nous dans les studios, Monsieur Raphaël Adam, Monsieur Patrick Jarry et Manon Brito. Bonjour et merci d'être aujourd'hui à un dimanche dans les studios de Radio Alpha.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Alors, honneur, Monsieur le Maire, Raphaël Adam. Donc, Nanterre et la communauté portugaise, on dirait que c'est un mariage depuis des décennies, Monsieur le Maire.
Effectivement, la communauté portugaise à Nanterre est très présente et depuis longtemps dans l'histoire. Et l'histoire de Nanterre même s'est construite aussi avec l'arrivée de la communauté portugaise dans le secteur aujourd'hui, à proximité de la Défense, où se construit notamment notre 11e quartier, le quartier des Groux, où était présente la communauté portugaise historiquement. Et puis aujourd'hui, elle est présente avec notamment une association, et Emmanuel, qui est présent avec nous, l'ARCOP, qui est présente sur le Mont-Valérien, où il y a aujourd'hui beaucoup de Portugais qui sont présents, donc ils ont migré d'un quartier à l'autre finalement de la ville. Et au-delà de la présence, c'est aussi l'identité de cette révolution des œillets, et c'est pour ça qu'on souhaite la marquer à Nanterre dans le territoire de la ville, c'est de pouvoir montrer cet attachement aussi à la liberté, à la démocratie, et surtout dans la période effectivement qu'on connaît actuellement et que vous avez rappelé.
Légèrement évoqué. Alors, cette place, 25 avril 1974. Alors, Monsieur Patrick Jarry, vous étiez le maire pendant des années, vous avez eu certain nombre de mandats, et ça, je pense, c'est quelque chose, ça vous tenait au cœur, parce que finalement, à l'origine, bon, entre la communauté portugaise et vous, mais je pense que c'est vous qui avez, je peux utiliser l'expression, foncé pour que ça se passe.
Oui, je pense que c'est un moment important avec le moment de la construction de l'ARCOP, et puis quand je suis devenu maire. Évidemment, j'étais très attaché à cette ville dans laquelle j'ai grandi. J'étais très attaché à ce que l'ensemble des communautés vivantes dans notre commune soit mis en exergue. Et donc, moi, je trouvais que la communauté portugaise, qui était importante en nombre, dans l'histoire, etc., n'avait pas forcément, au plan culturel, au plan des initiatives, suffisamment de rayonnement dans la ville. Et donc, avec les amis de l'ARCOP et puis avec l'ensemble des élus de Nanterre, je me suis beaucoup attaché à cela. Et évidemment, je tenais beaucoup à ce symbole de marquer dans les rues, sur les places, l'histoire d'une ville. L'histoire d'une ville se raconte comme ça, en se promenant dans les rues, sur les places, etc. Et il me semblait que c'est pour ça que j'ai proposé au conseil municipal au mois de juin l'année dernière, où j'étais encore le maire à ce moment-là, cette idée d'avoir une place le 25 avril, qui me semblait le meilleur symbole de ce qu'on partageait ensemble.
C'est très important de transmettre la mémoire. Quand je parle de mémoire, c'est tirer les leçons du passé pour savoir où on est aujourd'hui et préparer le futur. Je pense que c'est un petit peu le sens de l'inauguration de cette place 25 avril 1974 à Nanterre.
Oui, oui. Moi, je pense toujours que l'histoire et le présent se mêlent, hein, dans la vie des gens et en même temps dans l'histoire d'une ville, d'une nation. Il y a forcément besoin. Alors, il faut à la fois connaître son histoire et puis en même temps se projeter dans l'avenir avec ça. Et par exemple, la question de notre projet politique à Nanterre, c'est de faire une ville des mixités au pluriel. Et cette question du vivre ensemble est une question fondamentale. Ça se travaille en permanence dans toutes les initiatives, pas simplement liées à l'histoire, mais au quotidien, ça se travaille.
Voilà. Alors, ce travail-là est fait aussi par la communauté portugaise, Manuel Brito. Donc, pour la communauté portugaise et pour l'ARCOP, le travail qu'elle fait, l'ARCOP n'a pas attendu le 50e anniversaire du 25 avril pour le fêter. Donc, c'est important que Nanterre puisse avoir cette place, bien que les Portugais, quand on parle des Portugais de Nanterre, on revient quelques décennies en arrière avec les Portugais qui étaient au Binoville de Nanterre, mais enfin, la communauté portugaise depuis les années 60, ça n'a rien à voir.
D'abord, je veux dire merci beaucoup à Monsieur le maire, merci beaucoup à Monsieur Patrick Jarry, et merci aussi à José Pinto. Je voudrais dire que je vous remercie beaucoup pour qu'est-ce qu'il fait pour la communauté portugaise à Nanterre et ça pour notre association et je pense pour toute la communauté qui habite à Nanterre, ça sera un plaisir, ça va exister tout le temps notre corps avec la place du 25 d'avril à Nanterre. Pour nous, pour la communauté, je pense que c'est une très bonne chose que M. Patrick pensait faire et je le remercie encore beaucoup pour ce travail et pour tout ce qu'il fait pour la communauté portugaise. Maintenant, je vous dire aussi pour toute la communauté portugaise qui habite Nanterre et les Français, pour le 4 de mai, il faut se joindre nous à 11 heures du matin, c'est la inauguration de la place du 25 d'avril. Et j'appelle pour se joindre à nous pour fêter tous ensemble la place du 25 d'avril à Nanterre. Pour nous et pour notre association portugaise, ARCOP Nanterre, ça me fait grand plaisir de rester avec la place du 25 d'avril à Nanterre.
Oui, d'autant plus que c'est vous qui allez finir cette célébration, cette inauguration, en fin d'après-midi de samedi 4, justement avec une fête, mais on aura le temps de parler du programme. Alors, le tissu associatif, c'est très important. On sait très bien dans les villes, pour le vivre ensemble, etc., etc. Mais je profite pour avoir un ancien maire, pour parler de certaines choses quotidiennes de nous, citoyens, comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la situation économique pour les collectivités territoriales? Concrètement, le gouvernement a annoncé réduire le budget dans la mesure où bon, on a un déficit énorme. Et une fois de plus, on demande au département, aux mairies, on demande aux régions de faire des économies. Alors, je demande à M. le maire, M. Raphaël Adam, comment on fait des économies quand la précarité augmente, quand il manque des logements, quand une aide sociale, il faut aider les habitants de plus en plus, on va couper où? Comment on coupe, comment on gère un budget d'une mairie, c'est ça qui nous concerne.
Les économies, c'est 10 milliards cette année, 20 milliards de plus l'année prochaine, donc 30 milliards à trouver sur le budget. Les collectivités, on nous a annoncé déjà qu'on serait de toute façon mis à contribution, mais mis à contribution comment? Parce qu'au-delà de la crise que supporte le pays et donc ce déficit-là, on a aussi une baisse, nous, sur les recettes qui peuvent exister sur la ville, parce que c'était aussi un choix gouvernemental d'avoir réduit, d'avoir supprimé un certain nombre d'impôts locaux qui permettaient aussi de pouvoir financer l'action des collectivités locales, et on le voit notamment par rapport à la crise. La crise amène aussi un certain nombre de recettes en moins pour les collectivités territoriales. Donc, en fait, on est serré aujourd'hui. On a un effet de ciseau, en fait, sur les collectivités qui nous oblige aujourd'hui à rationaliser complètement nos budgets. Et donc
rationaliser et rationner aussi, non?
Et rationner,
c'est peut-être un terme,
on évite effectivement d'être à la phase du rationnement, mais pour cette année, on y arrive encore. le budget de l'année prochaine sera de toute façon beaucoup plus compliqué à tenir, et on a encore des objectifs, nous, à la fois de construction, d'aménagement, puisqu'on a un certain nombre d'équipements. On accueille les Jeux Olympiques cette année, et on a notamment, la semaine avant les vacances, nous avions inauguré le nouveau gymnase Alice Mia dans le quartier du Vieux-Pont à Nanterre, et c'est typiquement un équipement, du coup, qui doit être aussi financé, puisque la ville continue de se développer. Il y a la construction du logement, il y a la construction d'équipements publics, construction d'écoles aussi, puisque je le disais tout à l'heure, avec le quartier des Grous, on a de nouvelles écoles à construire. Alors on a la chance, quelque part, par rapport à certaines dynamiques, nous, dans l'ouest de Paris, d'avoir encore la volonté de pouvoir construire des écoles, parce qu'on continue de construire aussi du logement pour tous, du logement abordable, qui permet à chacun de pouvoir vivre encore dans la métropole, ce qui est pas le cas dans une métropole qui se gentrifie.
Alors, par rapport au logement, on sait qu'il y a une liste d'attente pour HLM, ça dépasse 7-8 millions de personnes qui cherchent un logement. Le gouvernement s'apprête à changer la loi SRU, donc d'imposer minimum de 20% de logements sociaux, minimum des minimums. Dans 94, on a des villes qui ont à peine 2,4% préfèrent payer une amende. Alors, cette loi SRU, on doit la changer dans quel sens ?
On devrait plutôt mettre un article supplémentaire dans la loi SRU qui ferait, par exemple, que dès que je construis 100 logements dans n'importe quelle ville, obligatoirement, je suis obligé de construire 30% de logements sociaux. Mmh. Voilà. Si on appliquait cette règle-là dans toutes les villes de la métropole, il y en a 131, et dans celle de l'Île-de-France, on rapidement... D'abord, on éviterait de concentrer les difficultés dans les mêmes quartiers ou dans les mêmes villes, et on résoudrait assez rapidement cette préoccupation qui est non pas de faire du logement entre guillemets dit social, puisque par ce terme on sous-entend que c'est que pour les gens qui sont en difficulté sociale. C'est absolument pas le cas. En réalité, avant la définition, c'était HLM, habitation à loyer modéré. C'était plus compréhensible. C'est pour qui ? Mais c'est pour la caissière qui travaille au magasin, au grand magasin du coin, chez Auchan ou chez Leclerc. C'est pour l'employé municipal qui travaille dans les services de la ville. C'est pour les jeunes enseignants qui visitent.
Pour
un jeune policier qui démarre, pour une infirmière. C'est-à-dire qu'en réalité, si on ne construit pas cette part partout de logements entre guillemets dits sociaux. Ben, c'est tous ces gens-là qu'on met dans la difficulté, et notamment tous les jeunes, puisque, y compris, on sait souvent que ces logements servent aussi pour les jeunes pendant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Au début de leur carrière, ils vont, quelle que soit souvent la profession, ils vont commencer par être dans ces endroits-là. Donc, non, il faudrait ajouter, notamment pour les métropoles, parce que, évidemment, la situation n'est pas la même chose si on parle dans le centre de la France, etc. Mais dans les métropoles, il faudrait ajouter un article qui oblige à ce que, partout, dès que je fais plus de 100 logements, je fais 30% de logements sociaux.
Alors, le département 92, Hauts-de-Seine, c'est le département plus riche de France. Bon. Alors, mais quand on prend les villes, plusieurs villes du 92, ben, là, il y a des dissymétries énormes. Mmh. Énormes, parce que quand on voit le nombre d'HLM et qu'on fait les comptes, le pourcentage par ville, on dirait qu'il n'y a que la gauche qui travaille là-dessus. Ça passe.
Mais c'est même pire que cela. C'est même pire que cela, parce que moi, je suis conseiller départemental. Donc, en réalité, si vous preniez des villes comme Le Plessis-Robinson, des villes comme Levallois, il y a une quarantaine d'années, ces villes ressemblaient à Nanterre. Mmh. Il y avait même au recensement de 82, à Levallois, il y a plus de travailleurs immigrés à Levallois qu'il y en a à Nanterre. Mais il y a eu au contraire un choix systématique, politique, d'utiliser les lois de décentralisation qu'elles permettaient et la désindustrialisation qui a libéré d'énormes terrains fonciers pour changer le projet. Aujourd'hui, alors que la moyenne, par exemple, des gens vivant sous le seuil de pauvreté est à peu près de 15% dans la région Île-de-France, au Plessis-Robinson, il est de 6%. Voilà. Et donc, c'est un choix politique qui est organisé, et le département lui-même a pris sa part dans cette affaire-là.
Attendez, vous voulez dire par là qu'il n'y a pas de solidarité au niveau du département ?
Non, aucune. D'ailleurs, ça n'est pas aujourd'hui, puisque même lorsqu'il a fallu résoudre Par exemple, on parle beaucoup des bidonvilles de Nanterre, de Champigny, certains qui étaient avec des gens venus du Maghreb, d'autres avec des gens du Portugal. Mais quand il a fallu résorber ces bidonvilles, par exemple, les villes qui sont autour de Nanterre se sont quasiment toutes opposées à l'accueil sur le territoire d'une partie de ces gens qui travaillaient dans les entreprises de Nanterre, mais parfois aussi de Rueil, de Suresnes, de Puteaux, etc., etc. Donc c'est un long processus, mais c'est un projet politique d'avoir essayé de construire, penser qu'on pouvait construire une métropole, même si on n'utilisait pas le mot à l'époque, une métropole à deux vitesses. Mais ça n'a pas d'avenir, cela. Ça n'a pas d'avenir.
Et on voit la situation
sur l'équilibre, sur la loi SRU, typiquement, il y a aujourd'hui une prime au non-respect de cette loi SRU, puisqu'on nous annonce aujourd'hui que finalement, le logement intermédiaire, par exemple, va être intégré dans le calcul de la loi SRU. Donc, au-delà du fait de baisser en plus le seuil de cette loi SRU, c'est une forme de récompense aussi du non-respect de cette loi SRU pendant plus de 20 ans. Donc, la vraie difficulté aussi, elle se situe sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on pénalise en réalité les villes qui correspondent. On prend à l'échelle de la métropole, en gros, 19% de la population de la métropole vit sous le seuil de pauvreté. À Nanterre, c'est 20%. Quand Patrick le disait à l'instant, on a des communes chez nous qui sont à moins de 10%, qui sont même parfois à moins de 5%. La non-conformité, elle est plutôt quand on est à 5 que quand on est à 20.
Bon, enfin, on pourrait continuer comme ça, parce que, alors, tout à l'heure, monsieur Adam, vous avez parlé justement de la politique de la mairie, quand c'est sur logement, qui dit logement, dit école, dit crèche et tout ça. Alors, en sachant que finalement, c'est le pouvoir local, à savoir les mairies, les départements, les régions, qui sont les plus grands investisseurs, avec les réductions de budget, etc., finalement, bon, on veut créer des emplois, on veut dynamiser l'économie. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, bon, et ça demande d'investissement, vous dites, bon, c'est pas possible.
C'est la difficulté. Il y avait une volonté d'appliquer la décentralisation dans les années 80. C'est ce qui a été créé avec des moyens qui étaient mis en face. Aujourd'hui, les moyens, on le voit, ils sont complètement, ils disparaissent progressivement. Donc, quand on n'a pas de recettes par la présence d'activités, d'entreprises qui permettent aussi aujourd'hui d'apporter de la contribution, mais là encore, elles sont captées par un millefeuille en réalité de structures, de collectivités. On parle de la métropole, on a les établissements publics territoriaux, on a tout un tas de strates finalement aujourd'hui qui viennent se rajouter avec des compétences qui sont diluées. On maintient une clause de compétence générale aux communes qui sont censées être capables d'intervenir sur tout, mais avec de moins en moins de recettes. Et aujourd'hui, la capacité d'aller chercher des financements, elle ne passe que par des fonctionnements en appel à projet. Il n'y a plus de système de guichet, y compris auprès de l'État, pour aller solliciter des financements pour investir, construire de nouveaux équipements. On n'a plus cette disponibilité-là. On doit rentrer dans un processus comme une association, finalement, qui demanderait une subvention à une ville. Ben, les villes, aujourd'hui, demandent des subventions à l'État, progressivement, en fonction de calendriers spécifiques, en sachant jamais, finalement, si le financement sera maintenu dans le temps, puisqu'il y a aussi la question de la temporalité et les équipements publics qui se construisent sur le long cours.
Et vous avez pas le droit au déficit. Très important. Ah oui. C'est interdit le déficit pour les collectivités territoriales. Alors, quand on parle de Nanterre, on a la vision. Bon, il y a la défense qui est collée. On a tout un tas d'autoroutes, de terrains, etc., etc. Alors, au niveau des transports, donc peut-être en résumé, qu'est-ce qui se passe avec la ligne 18? Je ne sais pas si... Une petite explication, parce que apparemment, c'est quelque chose, c'est un projet qui avait été abandonné. Ça revient, ça refait surface, mais on n'a même pas mis au courant la municipalité de Nanterre.
Oui, ben c'est un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, donc la ligne 18 fait partie de la ligne Grand Paris,
C'est la liaison entre
Versailles et la Défense. En réalité, pas la Défense, puisque en réalité, la gare terminus serait Nanterre. Bon. Mais en tout cas, donc c'est cela, avec d'ailleurs deux seules gares. Hein, c'était une voie qui était un peu particulière, puisque il n'y avait que deux gares de prévues. C'est sans doute cela qui avait amené à l'époque à considérer que il fallait faire la 15, il fallait faire la 16, la 17, tout ça. Mais faire la 14, mais bon, la 18 n'était pas, etc. Et donc, forcément, donc quand on aménage un nouveau quartier, dont a parlé tout à l'heure Raphaël Adam, qui s'appelle le quartier des Grous, qui est un quartier d'intérêt national, bon, quand on démarre au milieu des années, en 2018-19, on démarre l'aménagement de ce quartier, bien sûr qu'on interroge tout le monde, le Grand Paris, le département, la région, l'État, pour dire, bon, finalement, la 18 est abandonnée, donc on va faire notre aménagement de quartier en tenant compte qu'il y aura qu'une ligne, le 15, plus déjà Eole. Bon, on démarre, et puis, alors que les choses sont en train de se construire, il suffit d'aller à Nanterre, c'est en train de se construire, d'un seul coup, ça ressort des chapeaux, on va faire la ligne 18. Pourquoi ? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui est changé par rapport il y a 10 ans quant à son utilité? Et le pire de l'affaire, c'est que finalement, la ville la plus concernée, c'est forcément Nanterre, parce que la gare d'arrivée, elle est à Nanterre. On nous parle d'études réalisées dans laquelle, d'ailleurs, on se demande avec quel budget, puisque généralement, quand on fait une étude, il faut passer ça dans les assemblées départementales pour attribuer un budget, avec des budgets dont on se demande où ils ont été pris. Et nous, on n'est absolument pas ni informé, ni consulté. On ne demande pas notre avis.
D'ailleurs, Monsieur Raphaël Adam, donc vous, comme maire de Nanterre, vous avez demandé les documents. Est-ce que vous les avez eus ou pas ?
On ne les a pas transmis.
Ah, d'accord.
On a envoyé plusieurs fois la demande. Mmh. Donc on a saisi aussi la CADA à ce sujet pour pouvoir avoir communication, effectivement, de ces documents. Et surtout, qui dit gare, en réalité, moi j'ai envie de vous dire, dit arrière-gare. Et on est placé pour le savoir, puisqu'on inaugure en ce moment le RER E, qui est en train de se terminer dans son prolongement jusqu'à Nanterre, pour sa première phase. Et le fait d'avoir le terminus nous a amené à avoir aussi un dépôt, puisque derrière, cette arrière-gare prend une place importante. On reste quand même dans le périmètre de la métropole, donc c'est des surfaces supplémentaires. Et tout ça n'est pas étudié, on n'a pas d'éléments, effectivement. C'est un quartier, une opération d'intérêt national, mais sur laquelle l'intérêt local, pour le coup, n'a jamais été pensé. On ne se dit pas qu'on va faire vivre aujourd'hui 10 000 habitants dans ce quartier. Et donc c'est ça l'élément essentiel pour nous, qui est un facteur déterminant, puisqu'en fait, créer une nouvelle gare à cet endroit-là, avec une arrière-gare, c'est créer 10 ans de travaux en plus. Il n'est pas entendable de dire de faire vivre des habitants de Nanterre pendant 15 ans dans les travaux.
Non, ça suppose des accès, ça suppose de foncier, etc., etc. Bon, revenons à cette inauguration de la place 25 avril 1974. Donc, ce sera le samedi 4 à 11h. Bon, mais entre-temps, tout le programme démarre déjà le jeudi 2 mai, monsieur Adam.
Exactement. Jeudi 2 mai à 19h, donc dans notre librairie El Gorbin, tout à côté de la gare de Nanterre-Préfecture. Donc nous allons accueillir Hugo Paletta, qui est sociologue et qui a écrit un livre qui s'appelle « Découvrir la révolution des œillets ». Donc il va venir présenter, donc c'est une première phase d'échange finalement, puisqu'on aura finalement quatre temps dans cette inauguration. Le premier le jeudi 2 mai, le vendredi 3 mai...
À 20h30...
Exactement, au cinéma des Lumières, avec la projection du film Capitaine d'Avril. Mmh. Et nous recevons le colonel Delgado, da Fonseca, qui avait marché avec les forces, qui était un des capitaines d'Avril en 1974. Et lui, il a marché sur Porto, effectivement, parce qu'on a toujours un peu la vision sur Lisbonne, mais en réalité, pourquoi cette opération-là a fonctionné à ce moment-là pour renverser la dictature ? C'est parce que tout le pays, en réalité, s'est levé, les militaires de tout pays et toutes les villes ont été prises à ce moment-là. Donc un temps d'échange sur effectivement la révolution. Et puis le samedi 4, donc Manuel Brito l'avait rappelé, à 11h, nous inaugurons la place de la révolution des œillères.
C'est où exactement, monsieur le maire ?
Alors elle est le long du boulevard de la Défense, à côté du nouveau siège de Vinci. Dans le quartier du Parc Nord. Donc, pour venir, c'est la gare de Nanterre-Préfecture, le plus court.
Et on marche un peu.
Ce sera fléché pour les personnes qui viendront nous voir.
Alors, donc, le colonel Delgado français, qui sera présent aussi. Alors, des chants de la Révolution interprétés par des jeunes membres de l'association ARCOP. Brito ?
Oui.
Vous allez avoir du travail.
Il n'y a pas beaucoup de travail, parce que, là, comme le dit M. le maire, du travail était presque déjà tout organisé. Oh. Bah, nous, on va faire le buffet pour les gens qui vont être là-bas pour l'inauguration. Il va faire le, après, il y a un petit groupe, vous avez dit tout à l'heure, pour animer un peu les gens qui vont rester là-bas. Mmh. Et pour nous, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est que je suis encore très, très, très fier là, de la ville de Nanterre. Il y a M. Patrick, il y a M. Maire pour cette place-là, parce que ça va rester dans l'histoire de tous les habitants portugais à Nanterre. Et pour nous, ça sera bien, parce que pas pour moi, mais pour les jeunesses, pour les fils, tout ça, quand ils passent là-bas, ça c'est une place de 25 avril de 1974. Et ça reste, ça va rester un peu dans la mémoire des jeunes qui sont nés ici en France, des jeunes voilà. portugais.
Et ça va peut-être les obliger à se demander voilà. qu'est-ce que c'était le 25 avril 1974.
Voilà.
Alors, là, il y a un lien aussi à la ville, et c'est très important, c'est l'université de Nanterre. Et surtout avec la contemporaine, parce que j'ai vu les travaux, j'ai accompagné les travaux de cette super bibliothèque. Il y a un fonds qui se concerne le Portugal, la communauté portugaise, quelque chose d'énorme hein, à la contemporaine. Et là, ça va être à 15h, au cours Nicole Dreyfus, avec Victor Pereira, professeur universitaire, et qui va parler d'immigration portugaise sous la dictature Salazar, et animé par Christophe Rouge. Alors, c'est un maître de conférence, justement. La faculté de Nanterre. Et tout à l'heure, on va la voir parce que lui, demain, va participer à une conférence de presse sur Mario, une conférence sur Mario Soares. Oui. Mais enfin, bon, et après, ça finit, comme toutes les fêtes en France et au Portugal, par une soirée festive. Mais, justement, par rapport à tout ça, bon, vous allez soulever un certain nombre de choses, vous allez voir des discours, des conférences. Donc, est-ce que finalement, bon, je vous pose la question à vous deux, Monsieur Raphaël Adam, Monsieur Patrick Jarry également, est-ce que finalement c'est pas un petit clin d'œil aussi avec tout ce qui est en train de se passer en France, déjà le 9 juin, avant les élections européennes, après 1927, les élections présidentielles, ben, je ne sais pas, bon, je ne veux pas relier une chose à l'autre, mais enfin...
C'est surtout qu'on mobilise en plus les jeunes, c'est-à-dire que cet aspect de transmission, au-delà, on le marque dans l'espace, mais aussi on a un rendez-vous avec nos jeunes, puisqu'on a une filière en langue espagnole au lycée Joliot-Curie à Nanterre, et donc les lycéens de Joliot-Curie ont préparé aussi une exposition, donc on va projeter pour avoir aussi ce temps d'échange et ce temps de partage sur cette histoire et ce que ça a marqué, le symbole, l'importance que ça peut avoir, parce que finalement on est à 50 ans de la révolution des œillets, la sortie d'une dictature qui avait duré finalement aussi longtemps, et on voit aujourd'hui la remontée des périls. Voilà, et elle est partout dans l'Europe.
Merci. Non, par rapport aux dates, vous savez, une ville, ça se construit sur le temps long. Souvent je dis, une ville c'est éternel. Et ça se construit sur le temps long, et donc... il faut évidemment pour lui donner une âme, parce que cette ville, elle a une âme, elle ne ressemble pas à d'autres villes. Cette ville de Nanterre, elle a été en réalité construite par les migrants. Elle a été construite à la fois physiquement par les migrants venus du centre de la France, hein, venus de Bretagne, venus évidemment du sud de l'Europe, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, venus du Maghreb, aujourd'hui venus d'Afrique subsaharienne, venu aussi de l'Asie, de Chine, etc. Et ces migrants qui ont participé, tous ces migrants, ces histoires de migrants, ils n'ont pas simplement bâti physiquement nos pères, en quelque sorte, n'ont pas bâti physiquement simplement Nanterre et la Défense, avec les maçons qu'il y avait, avec ceux qui ont bâti les routes, etc. Ils lui ont donné une âme, quoi, celle d'une ville solidaire, d'une ville qui a toujours considéré que partout dans le monde, lorsque des hommes et des femmes souffrent, la ville, elle est solidaire, elle exprime sa solidarité. Et donc, faire des initiatives comme celle-là, c'est cultiver cette mémoire ensemble. Et ça, évidemment, ça a une influence dans le présent, mais ce n'est pas corrélé à des dates particulières, quoi. On est dans le temps long de la mémoire et de la ville.
Parce que j'ai fait l'avocat du diable, exprès. Bon, Monsieur Patrick Jarry, merci. Merci également à Monsieur Raphaël Adam. Merci au regard au Manon Brit. Alors, quelque chose pour dire, aujourd'hui, ça fait exactement 80 ans que les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité. 80 ans. Donc la première élection où les femmes ont pu participer, c'était au municipal du 29 avril et 13 mai 1945. Et la première fois, premier vote des femmes pour un scrutin national, un référendum à l'Assemblée constituante, c'était au 21 octobre 1945. 33 femmes sont élues membres de l'Assemblée nationale constituante, 17 communistes, 6 socialistes, 9 MRP et 1 PRL. 80 ans, quand finalement, bon, on parle beaucoup de 1789, mais il a fallu attendre pratiquement deux siècles pour avoir ce droit.
La France n'était pas en avance. Elle s'est longtemps opposée au droit de vote des femmes. C'est évidemment aussi un moment important de l'histoire que, évidemment, les femmes aient pu participer à l'ensemble de ces scrutins.
Au Portugal, les femmes ont dû attendre 1974.
Ouais.
Bon, voilà. Bon, voilà, on revient.
En général, les dictatures ne sont pas très, très favorables aux femmes.
Non, il paraît que les femmes votent trop à droite. Non, elles sont fait rester à la maison, s'occuper du mari, s'occuper des enfants, faire à manger, le ménage, et tout ça. Bon, mais enfin, bref.
La liberté, généralement, il n'y a pas la liberté pour les uns et pas pour les autres. En réalité, quand on commence à restreindre les libertés pour les uns, on restreint la liberté pour tous. C'est pour ça que les dictatures n'aiment pas beaucoup donner des droits aux femmes.
Absolument, oui. Également, ils n'aiment pas beaucoup la culture non plus. Parce que Salazar, ils disaient, non, il ne faut pas trop donner des trucs, sinon ils vont se poser des problèmes dans la tête, etc., etc. Bon, obscurantisme, c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler que ce qui s'est passé le 25 avril, d'un coup d'état militaire, heureusement que le peuple est descendu dans la rue, ça a tout changé. Mais enfin, bon. Les aïeux sont là. Merci à tous les trois. Et de toute façon, le programme, on va attendre encore au milieu de la semaine prochaine, ou même à la fin de la semaine prochaine, pour avoir le programme complet. Et à ce moment-là, bon, on ira directement sur le site de la mairie de Nanterre, on te voit tout ça. Merci.
Très bien.
Bon, alors, maintenant, je vais passer au portugais. Alors, on va pas très loin. Hein. On va tout simplement à Champigny-sur-Marne, où ce matin s'est commencé une fête amitié France-Portugais. Pour rappeler effectivement aussi le 25 avril, il y a quelqu'un qui participe, c'est Alban Nunes qui a commencé ses luttes au niveau étudiant 1962, ni plus ni moins, et à partir de 14h, il va participer à un débat justement sur l'héritage du 25 avril au Portugal, mais savoir également ces événements, quelles actions, interactions ont eu avec le reste de l'Europe et pas seulement. Alban Nunes que passou ontem, durante a manhã, aqui para o estúdio da Rádio Ovo. Alban Nunes, 50 anos de 25 de Abril, mas para si já lá vão 62 anos de luta.
Sim, é verdade. Digamos que comecei uma luta antifascista desde o início dos anos 60. Como dirigente estudantil, acabei por ser expulso da universidade, acabei por passar à clandestinidade em 65, e portanto foram 9 anos e tal na luta clandestina. Não fui preso, portanto, digamos, tive essa felicidade de trabalhar com jovens, sobretudo, que em geral se mantiveram numa grande firmeza e nunca fizeram declarações que pudessem alargar a repressão da PIDE até me atingir. Portanto, digamos, foram tempos de luta, duros, foram tempos muito felizes.
Ora, precisamente no dia 25 de Abril, bom, é a pergunta que se faz a toda a gente, peço desculpa ao Alban Nunes, onde é que estava no dia 25 de Abril de 1974?
Estava em Lisboa. Eu passei a luta clandestina a maior parte do tempo a partir do Norte, embora por vezes tivesse viajar a Coimbra e a Lisboa, sobretudo com tarefas para a juventude. Cerca de 10 meses antes do 25 de Abril fui transferido para Lisboa. Era membro da direção regional de Lisboa, portanto encontrava-me, digamos, em Lisboa. Posso dizer que na zona de Benfica, digamos, era onde tinha a minha instalação clandestina.
Já lá vão 50 anos, Alban Nunes. Há quem diga que as conquistas de Abril, aos poucos e poucos, estão a ser postas em causa. Eu comparo isso à situação atual. O Partido de Extrema-Direita, o Chega,
Eu agora sou parte de 2022, 12 deputados. 2024, 50 deputados. Pergunta que eu faço, onde é que está o 25 de Abril? É verdade que já lá vão duas gerações. Como é que se pode compreender que a extrema-direita, que é saudosista, antes é que era bom, possa ter tantos votos como teve?
Sim, é uma boa pergunta. Isso só se pode explicar por dezenas de anos de política de recuperação capitalista, política de direita, em que, digamos, as conquistas de Abril não só foram postas em causa, como muitas delas foram destruídas. E, portanto, um caminho que se traçou em relação a um país de progresso, mesmo um país socialista, em terminal da altura abriu-se essa perspectiva, que aliás foi consagrada na própria Constituição, de tal maneira que ainda está no preâmbulo da Constituição. Mas, digamos, as forças da reação, as forças contrárias ao 25 de Abril, forças que nunca se reconheceram neste processo, saudosas do antigamente, foram ganhando posições. E a nossa revolução, de facto, é uma revolução inacabada. Mas a contra-revolução também é. E ainda continua, digamos, uma luta do grande capital e da direita para levar até ao fim a destruição das conquistas de Abril. Mas é neste processo, digamos que, nomeadamente, o último governo de maioria do Partido Socialista, que não tem dado resposta a problemas muito sentidos. Durante os últimos dois anos, digamos, houve lutas em praticamente todos os pontos do país e de todos os setores. As questões da saúde, as questões do ensino, as questões da habitação, as questões da segurança social, para não falar de todo o processo de privatizações que destruíram aspectos fundamentais do nosso tecido económico e para não falar, digamos, do profundo fosso entre ricos e pobres. Porque, digamos, este governo, por exemplo, recusou-se a dar resposta a reivindicações, mas ao mesmo tempo, digamos, teve um balanço positivo no seu orçamento, justamente à custa de não dar resposta aos problemas. E enquanto os salários se mantiveram a níveis muito baixos, são os mais baixos praticamente da Europa, diariamente os maiores grupos económicos lucravam 25 milhões de euros. Portanto, toda esta situação de não resposta aos problemas, de injustiças sociais, de uma justiça lenta e de classe, portanto, tudo isto criou descontentamento que foi a direita a capitalizar.
Álvaro Nunes, vai ser dentro de 4 dias, o 25 de Abril. Curiosamente, a Iniciativa Liberal, o Chega e o CDS querem que se celebre o 25 de Abril e o 25 de Novembro.
Sim, são, digamos, uma direita, uma reação que sempre existiu, mesmo dentro do PSD, do CDS, que agora se afirma de uma forma mais nítida na Iniciativa Liberal e particularmente no Chega, que, digamos, portanto, prosseguem esse caminho de tentar levar até ao fim, digamos, a destruição das conquistas e enterrar todo o significado político, ideológico, cultural do próprio 25 de Abril. Mas, digamos, a sua ação tem limites. A Revolução Portuguesa criou uma situação em que em Portugal há um antes e um depois do 25 de Abril. E a nível do movimento popular, do nosso próprio povo, ninguém pensa substituir o 25 de Abril pelo 25 de Novembro. Essa é a tentativa da reação. Mas nós veremos, estamos certos, que agora, no 25 de Abril e depois, no 1º de Maio, haverá grandes demonstrações de afeto, de apego, digamos, à Revolução, que efetivamente transformou, de alto a baixo, a vida dos portugueses.
Álvaro Nunes, já vão 50 anos do 25 de Abril, são duas gerações. Sabemos que uma parte, bom, a primeira geração, entre aspas, já foi amamentada com os subsídios de Bruxelas, ainda que o Sr. Cavaco Silva construiu autoestradas e ninguém se escolava nas autoestradas porque tinha nem para pagar as portagens. Mas enfim, de maneira que duas gerações já lá vão. Como explicar a essas novas gerações, aos jovens, aquilo que o país era e aquilo que o país é hoje, para evitar precisamente que ideias de extrema-direita, xenófobas, racistas e por aí afora? É um problema de educação, porque há quem diga que houve a revolução, o golpe de Estado militar, mas não houve a revolução cultural em Portugal. De maneira que, para esses jovens, o que é que se pode fazer para lhes explicar aquilo que era o país e que não podemos voltar atrás?
É uma boa pergunta. Digamos, nós podemos perguntar o que é que se ensina hoje nas escolas acerca da história de Portugal e, em particular, acerca do 25 de Abril. E do 25 de Abril não apenas a conquista das liberdades, dos direitos e o fim da guerra colonial, que eram, digamos, as aspirações fundamentais que uniam todo o povo português e todas as forças políticas, desde os comunistas aos liberais e aos socialistas, ou chamados socialistas. Portanto, é que o 25 de Abril foi muito mais além. Fez profundas transformações económicas, sociais, de que hoje quase não se fala. Os sete grandes grupos económicos que dominavam completamente a vida do país e eram o grande suporte do fascismo, na altura foram liquidados. Os Champalimos, os Espíritos Santos,
os Melos
para o Brasil, os Melos. Portanto, digamos, mas a escola não ensina em profundidade tudo isto. E a comunicação social, naturalmente, há notícias, há tal ou tal programa positivo, não queremos ser nihilistas em relação a este problema. Mas, globalmente considerado, há uma tendência para branquear o passado fascista, para branquear o colonialismo português como um colonialismo especial. E, portanto, não há, não direi uma educação, mas uma informação objetiva, normal, da história de Portugal e, particularmente, do que foi a Revolução de Abril. Portanto, a nossa posição é de tentar, na ação de esclarecimento, nas iniciativas em escolas, portanto, em debates, discutir estes problemas. E, por exemplo, eu pessoalmente valorizo muito a ação que a URAP, a União de Resistências Antifascistas, está a fazer nas escolas, dezenas e dezenas de iniciativas, com o acordo, naturalmente, das respectivas direções democráticas, que abrem espaço. E posso dizer que, quando nós conseguimos contactar os jovens e discutir com eles o que era a clandestinidade, o que era a luta, o que passaram os comunistas e outros...
Mas o que era a miséria das pessoas e a opressão ao povo em geral? Pois.
O país mais atrasado, o que era a situação de desigualdade entre homens e mulheres, a situação praticamente de exploração, a situação feminina. Portanto, quando se fala disto, digamos, os jovens ficam encantados, interessados. Portanto, o problema é chegar ao contacto com eles, porque eles recebem extremamente bem, mas a comunicação social e a escola não ajudam.
Albano Nunes, uma última questão. Estamos em França. Enviar, não sei, uma mensagem para a comunidade portuguesa, mas dizer comunidades, porque não posso esquecer um primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, para o não nomear, aos jovens partam porque o país não tem condições para levar trabalho, aos professores partam porque isto há crise, não é? Enfim, mas que mensagem pode enviar, porque os nossos ouvintes é da primeira geração, depois daqueles que chegaram mais tarde, nos anos, no final dos anos 2000, outros que estão a chegar ainda, que mensagem, Albano Nunes, para eles?
Bom, a mensagem podem ser duas. Uma, que estejam onde estiverem, lutem, digamos, pelos seus direitos, por valores progressistas, portanto, e neste caso, em França, participem, digamos, da luta dos trabalhadores e do povo francês, digamos, pela construção de uma sociedade mais digna, mais progressista, mais igualitária. A outra, que não esqueçam o seu país e que tenham confiança no desenvolvimento da luta, e contamos com a sua cooperação, com a sua participação. Não esquecer que em Portugal há problemas, há dificuldades. Vivemos, de facto, um momento, com os últimos resultados eleitorais, em que a direita tem melhores condições para avançar com o seu projeto destruidor, e a nossa luta de comunistas e das forças progressistas é mais difícil, mas confiança em que lutamos com confiança, digamos, para inverter esta situação e conseguir, enfim, uma alternativa que nós chamamos patriótica e de esquerda, que retome o caminho libertador da nossa Revolução de Abril.
Albano Nunes, muito obrigado.
Muito obrigado eu, e aproveito também, eu encontro-me em Paris a convite do Partido Comunista Francês, para lembrar que os comunistas franceses deram uma grande ajuda ao nosso partido durante a clandestinidade. Queremos agradecer também aos comunistas franceses.
Palavras de Albano Nunes, um dirigente do PCP, começou a lutar no 6º Movimento Estudantil em 1962, foi expulso por causa disso da universidade e que hoje está em Champigny 11, Rue Guitare, isto no quadro todo um dia dedicado às celebrações do 25 de Abril, por volta das 14 horas vai participar num debate e neste precisamente lá em Champigny, bom, estão nos comes e bebes, nem mais nem menos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, c'est dimanche 21 avril, 25 avril, on continue cette fois-ci, c'est en livre. Un livre Portugal, la révolution des œillets aux éditions Sileps, justement avec nous pour nous parler de ce livre. Patrick Silverstein, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Oui, bonjour, merci.
Alors, vous avez, c'est vous qui avez fait le choix, justement, des textes avec Christian Mailleux par rapport à ce Portugal, la révolution des œillets. Alors, il y a quelque chose que ça m'a beaucoup intéressé et interrogé, et en même temps, bon, j'ai constaté la même chose. C'est un coup d'État, point d'interrogation. Non, c'est une révolution. Là, on peut dire que c'est un parti pris dans le bon sens du terme.
Ah oui, absolument, c'est un parti pris parce que déjà à l'époque, mais encore un peu maintenant, je crois, la vulgate dans la presse et dans les commentaires politiques était évidemment que c'était un coup d'État, puisque une partie de l'armée s'est soulevée contre le gouvernement de l'époque pour le renverser, ce gouvernement évidemment dictatorial, de type fasciste, etc. Mais évidemment, c'était un mouvement militaire qui a mis à bas ce gouvernement, à la grande surprise des commentateurs de l'époque, à la grande surprise de pratiquement tout le monde, j'imagine, sauf évidemment de ceux qui étaient dans le complot. Mais c'est par ailleurs, quelle que soit l'appréciation qu'on puisse porter sur ce coup militaire qui a mis à bas le régime le 25 avril, il a ouvert une dynamique de mobilisation populaire qui a conduit avec beaucoup de soubresauts, et c'est ce qu'on essaye de traiter dans le livre, beaucoup de soubresauts, en tout cas à une forme de gouvernement démocratique que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une révolution. Donc c'est peut-être la vraie question, c'est pas coup d'État ou révolution, c'est coup d'État et révolution, sachant qu'un coup d'État classique, évidemment, n'a pas pour vocation d'ouvrir un processus de démocratisation, mais en général, de le briser. On était quand même peu de temps après le coup d'État militaire au Chili, qui est là, pour le coup, avait vraiment brisé et écrasé un processus démocratique et une révolution.
Oui, c'était en septembre 1973. Alors, justement, dans le livre, il y a une chronologie, il y a tout un tas d'articles, une chronologie, et ce n'est pas pour rien, justement, que le MFA, le mouvement des forces armées, pendant des heures et des heures, pendant la nuit, on y a la radio, disait « Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous », mais le peuple est sorti dans la rue. Donc, ça se trouve dans un certain nombre des articles qui sont publiés dans Portugal, la révolution des œillets. Justement, c'est ça. C'est cette désobéissance, populaire, c'est là qu'il y a eu le déclic. Il y a quelque chose qui a changé, ça a changé de nature, finalement, ce coup d'État militaire.
Absolument. Je pense que le MFA, par habitude militaire et par prudence, dans un premier temps et à plusieurs reprises par les voix de la radio à l'époque, demandé à la population, au peuple portugais, de rester calme et de rester chez eux pour ne pas interférer dans les opérations en cours. Mais c'est évident que le peuple portugais, après des décennies de dictature, a compris spontanément que c'était pas un coup d'État militaire classique, mais que c'était un coup d'État militaire qui visait à mettre à bas le régime fasciste de post-salazariste, etc. Et que donc ce peuple s'est emparé, mais très rapidement, ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est un peu un débat sémantique de savoir si c'était un simple coup d'État militaire, puisque l'interprétation, et c'est ça qui est le plus important, l'interprétation populaire a été rapide, et les gens sont descendus dans la rue très, très 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 rapidement.
Alors, dans le livre, il y a un certain nombre de collaborations, de textes qui soulèvent quelque chose qu'on se disait à l'époque, c'est-à-dire la bourgeoisie ne gouverne plus, mais le peuple, pas encore. Et justement, là où on parle de contrôle ouvrier, on parle de certain nombre de nationalisation, autogestion, il y a des comités qui sont créés un peu partout, des coopératives ouvrières, etc., etc. Donc, à un moment donné, on peut dire que c'est le peuple qui a pris de cette façon le pouvoir, qui échappait à tout le monde à un moment donné.
Bah évidemment. Mmh. C'est d'ailleurs le principe d'une véritable révolution populaire, c'est-à-dire que pour toute une série de raisons, divers secteurs de la population, que ce soit les ouvriers dans les entreprises, les employés dans les bureaux, les profs, les étudiants dans les écoles, les universités, évidemment au Portugal, les paysans dans les grands domaines agricoles, etc., sans que, évidemment, le pouvoir qui s'est effondré, qui n'existe plus, est à prendre, et donc ils se mobilisent localement, selon leurs capacités, selon leurs possibilités, pour occuper ce pouvoir, à la fois continuer à faire marcher la machine sociale, mais aussi pour évidemment changer les rapports sociaux, changer les rapports de pouvoir, que la société fonctionne différemment, en mettant en avant des intérêts populaires au détriment des intérêts économiques de la bourgeoisie, etc. Laquelle bourgeoisie, à l'époque, sent évidemment que le pouvoir dont elle disposait à l'époque, quelques mois, quelques semaines auparavant, lui échappe complètement. Sur le plan politique et progressivement sur le plan social.
Alors, il y a un article aussi que je considère très intéressant et important, « La révolution portugaise et la libération des femmes », c'est un article de Rafael Cortés. Effectivement, on dirait qu'on était au Moyen-Âge, hein, et c'est pas pour rien que c'est après le 25 avril 1974 que les femmes ont eu le plein droit de vote et d'être éligibles. Donc ça, c'est très important que la révolution, les femmes ont fait partie de la révolution, mais Patrick Sébastien, je pourrais dire aussi que finalement, il y a que des hommes qui apparaissent, qui ont dirigé tout. Mais cet article essaie de remettre les choses au clair.
Mais oui, mais évidemment, les images sont trompeuses, parce que sur les images, quels que soient les documents filmés, on voit essentiellement des hommes. Dans les cercles du pouvoir, on voit essentiellement des hommes. Dans l'armée, on voit essentiellement des hommes. Mais évidemment, la mobilisation des femmes pour la démocratie, pour leurs propres droits, elle est beaucoup plus silencieuse, elle s'insère un peu dans l'ensemble des sphères de la société, notamment dans le mouvement des habitants des Moradores qui occupent des logements, etc. Là, on voit beaucoup plus l'influence et des femmes qui vont peu à peu s'emparer des droits qui existaient ou qui commençaient à émerger dans d'autres pays d'Europe. Moi, je vais vous raconter une anecdote quand même pour montrer cette espèce de décalage. J'étais à un meeting à Lisbonne, je ne sais plus sur quelle place exactement, ça devait être à l'été 74. Et il y avait à côté de moi un jeune homme en bras de chemise avec une casquette sur la tête. Et à côté de lui, il y avait sa femme qui portait le bébé dans un bras, la veste de son mari dans l'autre et la caisse à outils sur la tête. Évidemment, cette image est frappante dans son archaïsme, etc. Mais il est probable que quelques mois plus tard, la même image aurait été totalement différente, mais évidemment, on n'a pas de témoignage, on n'a même pas de photo de ce moment, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, évidemment, les femmes se sont, comme tout le monde, d'une certaine manière, avec leurs problèmes particuliers, emparées de ce moment, des quelques mois qui ont suivi pour essayer de transformer la condition qui leur était faite.
Alors, une dernière question, ça va voir avec des mémoires, parce qu'il y a un certain nombre de témoignages, notamment des syndicalistes, de la fédération Aquitex, la CFDT, mais il y a surtout mémoire d'une révolution de Hotel Serrava de Carvalho. C'est quelqu'un qui a été très, très, très décrié au Portugal, et même été emprisonné à un moment donné, mais Hotel, ça a été une figure incontournable, et ça, c'est important de lire le texte qu'il y a dans le livre.
Oui, d'abord, c'est une figure incontournable parce que il a été à la fois le penseur et l'organisateur de ce fameux coup d'État du 25 avril, et il a été une des têtes pensantes une tête pensante qui disposait de la force armée, le COPCON pour le nommer, qui a défendu une certaine conception du processus révolutionnaire et qui a eu il le dit lui-même, la sagesse, à un moment donné, de penser que la mobilisation populaire n'allant pas plus loin qu'elle n'était, il n'était pas raisonnable de poursuivre l'aventure militaire, etc. Et de ce point de vue-là, c'était quand même un grand monsieur de la Révolution portugaise. Et je crois que son emprisonnement, quelques années plus tard, était à la fois le signe du reflux et d'une certaine vengeance sociale des possédants qui ont senti que pendant du 25 avril 1974 au mois de novembre de l'année suivante, ont senti que tout pouvait encore leur échapper et le rétablissement d'un processus normal qui aboutit à une démocratie parlementaire, etc., qui est évidemment un progrès par rapport à la nuit du fascisme qui a précédé. En tout cas, ces possédants ont probablement voulu lui faire payer le rôle qu'il a joué
le 25 avril, oui.
Le 25 avril, et dans les mois qui ont suivi. Et je crois que le texte qu'on publie est de ce point de vue-là très éclairant et aussi très émouvant, parce qu'on voit quand même un homme qui était arrivé au fait de la popularité, presque aux portes du pouvoir pour lui-même, et qui est resté un homme très modeste, se mettant derrière les intérêts populaires en général. Et ça, je crois que c'est un témoignage extrêmement puissant qu'on a voulu restituer.
Voilà, donc ça c'est dans le livre « Je rappelle la révolution, Portugal, la révolution des EIE, édition Sileps ». Et d'ailleurs, M. Patrick Sylvestre, on pourra continuer ce débat puisque vous allez être présent à la FNAC Saint-Lazare le vendredi 26 à partir de 18h. Donc on pourra continuer notre conversation si vous voulez bien.
Volontiers.
Merci bien, merci, à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Bom, vamos deixar o 25 de Abril, ainda que não vamos... Uma pessoa, personalidade intimamente ligada ao 25 de Abril, trata-se de Mário Soares, e amanhã, a partir das 18 horas, vai haver uma conferência no quadro ainda do cinquentenário da Revolução dos Cravos, amanhã na Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Christophe Araújo, boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde, obrigado eu pelo convite.
Muito obrigado. Ora, precisamente, é um dos participantes. Eu relembro que Christophe Araújo é da Universidade de Paris-Nanterre. Ora, o título desta conferência, Mário Soares, L'exil d'un démocrate pro-européen, quando estamos a poucos meses das próximas eleições europeias, não é?
Pois, claro. Mas um pouquinho. Sim, esta conferência insere-se num ciclo de conferência organizado pelo Álvaro de Vasconcelos, já começou o ano passado, e então cada vez estamos a apresentar umas figuras do exílio político em França nos anos 60, nos anos, também falamos dos anos 40, 40, 50, 60, 70, e claro, a figura de Mário Soares foi uma escolha importante no mês de Abril para o cinquentenário da Revolução de Abril, do 25 de Abril, e então foi uma escolha muito importante, uma figura muito ligada também à União Europeia, como disse, como salientou, e creio que era uma sessão importante. Vai haver a presença de dois dos filhos do Mário Soares, de Isabel Soares e João Soares, que vão estar presentes e que vão falar da figura do pai nesta data importante do 25 de Abril.
Ora, um grande sociólogo e filósofo francês, Edgar Morin, ele tem já uma idade muito, muito avançada, mas tem uma clarividência enorme, e Edgar Morin acompanhou todas essas andanças da passagem à democracia portuguesa.
Sim, acompanhou. Ele estava muito ligado aos grupos da esquerda, ao PCF em França, e então ele tinha uma simpatia muito importante para com os movimentos resistentes que estavam em França, ligados ao PCP, mas também ao nascimento do que vai ser, a partir de 1973, o PS. E então acompanhou este movimento, tal como outros intelectuais franceses. Estou a pensar em Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, e vários outros nomes assim da política francesa, mas ligados aos partidos de esquerda, que estavam muito, muito, que de repente começaram a olhar para Portugal quando ocorreu este evento histórico, que é o 25 de Abril de 1974.
O que não impede, bom, eu ainda conheci o Mário Soares quando ele estava na Faculté de Vincennes, mas era mesmo em Vincennes na altura, quando ele veio para aqui, depois foi para Rennes, porque Mário Soares esteve exilado aqui entre 69 e 74, mas curiosamente foi na Alemanha que foi criado o Partido Socialista. Fechou-se agora 51 anos, no passado dia 19, foi na Alemanha, de maneira que, bom, ele tinha apoios aqui de François Mitterrand e por aí fora, e parece que às vezes esquece precisamente essa passagem aqui durante 5 anos, de mais de 5 anos, que eu estou para... Sim, 5 anos, do Mário Soares em Paris. Penso que há poucos rastros disso.
Tirando o nome de uma cátedra do Instituto Camões, com efeito na costada em Rennes, de resto é verdade que esta passagem pela França ficou pouco rememorado e pouco salientado no seu percurso, apesar de ter vivido uns anos aqui, como disse muito bem, após o seu como dizer, quando ficou preso em São Tomé e Príncipe, depois exilou-se em França, então, e creio eu, escreveu até Portugal Amarduçado em França também, que saiu em primeiro em francês, antes de sair em português, após o 25 de Abril de 1974. Então, esta ligação com a França era óbvia, mas ao mesmo tempo não ficou muito relembrada aqui em França. E eu então creio que esta conferência que vamos dar amanhã vai ser também uma maneira de fortalecer um pouco este passado. Até há uma vontade de pôr uma placa no edifício onde ele viveu em Paris, e então para relembrar esta presença em França, e desde França que ele voltou para Portugal, quando chegou de comboio no Sud Express, para regressar em Portugal já no dia 20, se não me engano, no dia 28 de abril.
Com efeito, você esquecer a livraria que dizíamos que era a livraria do Mário Soares, na rua Gay-Lussac. Mas enfim, isso é outra história. Ora, mas finalmente, também um dos objetivos desta conferência é através da figura de resistente e de lutador de Mário Soares, de reafirmar um certo número de ideais também de liberdade, mas igualmente de igualdade no que diz respeito a igualdade, precisamente, isto são princípios da Revolução de 25 de Abril. Talvez hoje, mais do que nunca, Cristóvão Araújo, seja necessário reafirmar estes princípios, e a vida de Mário Soares é um bom exemplo.
Sim, claramente. E é mesmo neste âmbito que pensamos este ciclo e relembrar a figura de Mário Soares, também é relembrar, de um lado, o passado francês de acolhimento de uma larga parte dos intelectuais que estavam no exílio, que vinham quer da União Soviética, mas também das ditaduras de direita do sul da Europa, que fugiam os regimes autoritários da América Latina também. E então é um pouco uma maneira de evidenciar este passado, mas que também deve ser atual. Devemos relembrar que, pronto, há vários intelectuais em vários países do mundo atualmente que têm dificuldades em escrever, em viver, porque estão impedidos, amarduiçados, e também que faltam nos países onde faltam a liberdade, e creio que é algo de muito importante relembrar esta vontade de liberdade mesmo, e de apoiar também, claro, esta vontade de afirmar a necessidade da igualdade, dessas grandes ideias que depois foram foram as grandes ideias do 25 de Abril: a liberdade, a revolução, a igualdade, a descolonização, e essas ideias todas. Agora, claro, devemos atualizar estes termos com as lutas atuais que podem existir, mas quando vemos as fragilidades que estão, as fragilidades da democracia atualmente, basta relembrar figuras assim importantes do passado para também seguirem em lutar e continuar nesta cena do Mário Soares e de várias outras pessoas também, homens e mulheres também. Penso em Maria Lamas, aqui em França, que também teve um papel muito importante na defesa dos direitos, quer dos portugueses, mas também das outras pessoas, das mulheres, nomeadamente.
Portanto, a conferência amanhã, a partir das 18 horas, Fondation da Maison de Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail, em Paris 6. Mas, entretanto, Cristóvão Araújo tem outra data, que vai ser no dia 4 de maio, aí na Contemporaine, está a jogar em casa, passa a expressão, na maneira em que vai participar no debate com o historiador Vítor Pereira, o tema L'immigration portugaise sur la dictature de Salazar. Isso é um trabalho importante que aí a Faculdade de Paris-Nanterre, mas igualmente a Contemporaine, estão a fazer sobre estas questões, não?
Sim, claro. Eu recebi ainda, foi esta semana, é algo muito recente, conhecendo deste convite para ir a dialogar com um grande especialista da migração portuguesa em França, que é o Vítor Pereira. E então vai ser um momento importante também, porque vai ser a inauguração de uma das primeiras praças do 25 de Abril. 74 em França, na cidade de Nanterre, e neste lugar específico que é a Contemporaine, que é uma biblioteca que tem um acervo documental que é muito interessante, muito ligado à história recente, à história política recente, quer da Europa do Leste. Há um grande fundos russos, mas também há os fundos da Associação Memória Viva, que teve um papel importante da resistência portuguesa à ditadura em França. E então vai ser uma discussão, pronto, para relembrar que esta presença, que ainda é muito atual, esta presença portuguesa em França, e que vai ser, creio eu, um momento interessante de debate acerca destas temáticas da questão da migração e da politização ou não, da mistura da dimensão económica e política na migração portuguesa nos anos da ditadura. Sim.
Com efeito, sem esquecer que na Contemporaine vocês têm um espólio, entre outros, né, de Albano Cordeiro, que é algo de extraordinário. Muito obrigado, Cristóvão Araújo. Damos encontro amanhã, então, em Paris, entre as 18 e as 20. Obrigadíssimo e até uma próxima, então.
Muito obrigado, até à próxima. Muito
obrigado.
Obrigado pelo convite. Obrigado. Adeus.
E vamos deixar Nanterre, agora vamos até a Alemanha connosco, precisamente, Alfredo Stoffel. Alfredo Stoffel, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde, eu aqui agradeço.
Ora, eu sei que está na estrada, eu quase disse está, não, parou. Como diz o outro, olha, a Festa da Liberdade, defender a democracia, será no dia 27 de Abril, em Frankfurt. Espero pronunciar corretamente. É bastante importante também vocês aí na Alemanha de celebrar esta data, tanto mais que vão ter igualmente um certo número de convidados, a começar pelo Presidente da Câmara de Frankfurt, de maneira que aí vocês largaram, quer dizer, o 25 de Abril não diz só respeito aos portugueses, Alfredo Stoffel.
Sim, é verdade. Nós, com o convite que endereçámos ao Presidente da Câmara de Frankfurt, portanto, vamos buscar um representante político da região, portanto, onde a festa será feita. Eu tenho que dizer que esta festa já é a terceira que é feita com a participação do círculo, do grupo de reflexão, do GRI-DPA, mas no passado temos feito com a comunidade italiana, porque os italianos também festejam o 25 de Abril. Claro, numa outra data, mas é num outro contexto.
É num contexto de Direca. Do final da Segunda Guerra Mundial.
Do final da Segunda Guerra Mundial, mas pronto, desta vez, por causa dos 50 anos, decidimos ser nós, portanto, os anfitriões, e desde o embaixador de Portugal, um capitão de Abril, vamos ter um grupo de pessoas bastante, portanto, bastante interessante. Até a própria conferência que vamos organizar tem através de uma professora da Universidade de Chemnitz, que vai falar sobre a democracia, a defesa da democracia e um desafio para o futuro. Portanto, não é assim tão evidente que 50 anos depois do 25 de Abril que tudo esteja democraticamente aceito na sociedade. Nós estamos a ver a extrema-direita cada vez mais como um polvo e dos seus tentáculos a minarem a sociedade. Portanto, alguém tem que, em princípio, mostrar que a extrema-direita não é bem-vinda, as teorias fascistas não são bem-vindas, portanto, pelo menos vamos marcando nós. É o pequeno contributo que nós damos.
Chega, penso que o Alfredo Stoffel está a fazer referência aos 50 deputados da extrema-direita eleitos no passado dia 10 de março, mas precisamente o subtítulo que eu li há bocado, Festa da Liberdade, é o título, Defender a Democracia. Isso, bom, tem muito a ver com aquilo que o Alfredo Stoffel acaba de dizer, porque a democracia é um combate diário para a manter, é um combate que tem que fazer.
É evidente, nós temos, vamos dizer assim, infelizmente, temos uma geração mais nova, que parece que é saudosista no que respeita a um passado que eles não conheceram, e depois nós temos situações bastante graves. Nós temos aqui na Alemanha um partido que é a AfD, que cada vez tem mais aceitação, e ainda por cima são capazes de vir a poder eleger um próprio presidente
Chanceler,
estatual.
Estatual. Pois,
A nível estadual. Depois, vocês aí em França têm uma situação idêntica com a senhora Le Pen. Temos uma Europa Central cada vez mais virada para um nacionalismo bacoco que não tem razão de existir, e depois começamos outra vez a culpabilizar os mais fracos da sociedade através de... Pronto, como dizer, vamos buscar culpas e vamos imputar culpas a pessoas que vêm para a Europa e que unicamente querem ser protegidas.
Sim, os imigrantes são os votos expiatórios, não é?
Nós aqui na Alemanha já tivemos essa situação nos anos 20, nos anos 30, que depois deu na catástrofe que deu. Portanto, acho que são todos esse tipo de coisas que nós não devemos deixar passar. E interessante, não podemos esquecer também que a argumentação da extrema-direita é precisamente igual em todas as partes. Nós temos essa argumentação no Chega em Portugal, temos a argumentação aqui na Alemanha, mas se formos à Holanda, se formos aí à França, a argumentação é sempre idêntica. Não existem estrangeiros bons estrangeiros maus, existem estrangeiros. Portanto, não julguemos nós, portugueses, só porque somos um povo que é capaz de se adaptar a todas as situações, que nós somos melhor que os outros. Quando chegar à altura, a extrema-direita ataca os portugueses como ataca as outras nacionalidades.
Aliás, não é por acaso que aí, precisamente, o Partido de Extrema-Direita, a AfD, disse que queria mesmo repatriar, eles tinham uma palavra bem específica para dizer isso, mesmo todos aqueles que eram estrangeiros de origem, que têm nacionalidade alemã, mesmo esses deviam ir para o olho da rua. O olho da rua não sei para onde, mas enfim, uma maneira de falar.
Ora, eles ainda disseram uma coisa ainda muito mais problemática, e que não é debatida na generalidade, é que eles estão dispostos a fazer esse repatriamento mesmo aos alemães, portanto a cidadãos alemães que não tenham nada a ver com movimentos migratórios, mas que simplesmente, se não quiserem acreditam, se não querem fazer aquilo que, pronto, que eles querem,
aderir,
neste
pois,
caso, o repatriamento, então também são postos na rua. Portanto, existe aqui uma clara definição do que é que a extrema-direita alemã pensa sobre as migrações, sobre os movimentos migratórios e, sobretudo, todos aqueles que apoiam a própria, portanto, esta imigração, que, sem dúvida, os países como a Alemanha, os países como Portugal, portanto, a Europa Central, não pode dizer que não precisa de migrantes. Portanto, há aqui muito populismo pelo meio, há aqui muitos medos, e depois, infelizmente, temos estrangeiros, neste caso, pessoas da nossa comunidade, que se deixam levar por este discurso facilitista, por este discurso populista, e sobretudo por este discurso generalista. Isso aí é que é o problema principal.
Mas esses portugueses, acontece aqui a mesma coisa em França, esquecem-se da maneira que foram recebidos, dos sacrifícios que aqui fizeram, porque muitos deles foram escravatizados porque eram estrangeiros, ou portugueses foram assassinados aqui por ataques racistas, mas parece que certas pessoas têm memória curta. Alfredo Stauffel, uma pergunta mais pessoal, foi a candidato suplente do PS às últimas eleições de 10 de março, ora, no dia 19 de Abril, fez precisamente 51 anos que o Partido Socialista foi formado aí na Alemanha. Podia-nos relembrar a localidade onde foi?
Sim, o Partido Socialista, saído da Ação Socialista Portuguesa, foi fundado em Bad Münstereifel, e com a ajuda, sem dúvida, do Partido Social Democrata Alemão e da Fundação Friedrich Ebert. Estiveram presentes, na altura, creio eu, 23 ou 27 representantes, e temos, logo aí, se fez valer as duas linhas mais interessantes do próprio comportamento do partido, que foi uma linha que não era muito a favor da criação do partido ainda, porque achavam que poderia haver retaliações por parte do governo de Salazar Caetano, e depois, e da PIDE, claro, neste caso, e saíram grandes personalidades, Mário Soares, Maria Barroso, Salgado Zanha, entre outros, para não dizer os nomes todos, porque eu de certeza absoluta que ia esquecer alguns. E então, agora, a parte mais interessante de todo este sistema é que, em 1973, já o Partido Socialista estava virado para ser um partido europeísta. Vem a Revolução, com todos, portanto, digamos assim, com todas as tendências ideológicas que naquela altura, com a Revolução, vieram à tona d'água, portanto, sem dúvida, com a primazia do Partido Comunista, e depois vimos que, no espaço de menos de 10 anos, Portugal estava na Europa, portanto, tinha aderido à Europa e mais tarde, portanto, aderiu ao euro. Portanto, nós temos que aqui ver a fundação do Partido Socialista na Alemanha, foi um pouquinho mais além da formação de um partido político.
Sim, com efeito, porque foi Mário Soares também que lutou durante anos e anos para que Portugal entrasse naquilo que na altura era a Comunidade Económica Europeia, e aliás, foi uma das primeiras reuniões foi aqui, em Paris, na Casa de Portugal, Cidade Universitária. Alfredo Stoffel, obrigadíssimo. Vamos continuar a falar, porque, entretanto, muitas coisas vão passar também no dia 9 de junho com as eleições europeias. Gostaria depois de ter o seu ponto de vista da maneira como isso decorreu aí na Alemanha. Obrigado e obrigado pela sua disponibilidade.
Eu é que agradeço.
Sei que está de viagem. Obrigado pelo tempo que disponibilizou à Rádio Alfa. Muito obrigado.
Pronto, eu é que agradeço. Até à próxima.
Até à próxima. Um abraço. Bom, on va quitter l'Allemagne. On s'approche de chez nous. On va à la mairie de Paris. Marie-Hélène Evrard, bonjour.
Bonjour Arthur et merci.
Alors Marie-Hélène Evrard, présidente de la CCP. Alors samedi 27 avril, la mairie de Paris va être à l'heure du 25 avril.
Exactement, grande manifestation en collaboration avec la mairie de Paris pour la CCPF, avec deux temps forts, l'un sur le plan historique l'après-midi, avec une conférence avec nos deux grands historiens Yves Léonard et Victor Pereira, et en soirée, à 18h30, nous avons une soirée plutôt festive, donc avec la musique.
Alors, on peut dire, bon, alors pour participer, c'est sur invitation, je crois, Marie-Hélène Evrard.
Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui concerne la conférence, on a invité, je dirais largement, mais c'est complet, a priori, donc comme ça se passe à la salle du Conseil, à Paris, nous avions 120 places. Et donc, je pense que ça sera compliqué de participer à la conférence. Par contre, pour la soirée, avec une chorale qui nous vient de la région parisienne de Levallois-Perret, qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel, et qui est Encanto, qui va nous donner un concert de chant polyphonique. Ça sera suivi de João Paulo Pereira, un contre-ténor qui nous vient d'Alcobaça. Et enfin, une prestation aussi prestigieuse, Jonas, qui a une partie, son projet c'est Massa de Andão, avec son spectacle Bat Fado, qui est une performance sur le plan, je dirais, choral Fado, mais aussi danse. Ce sera un spectacle très complet et il nous présentera aussi en avant-première une prestation qui s'appelle Massa de Andão et qui est un nouveau spectacle. Donc ça sera vraiment superbe et on est ravis d'accueillir à la fois toutes les associations, tous les gens qui sont impliqués, je dirais, dans la promotion de la langue et la culture portugaise. Donc il y a encore des places. Inscrivez-vous auprès de la coordination des collectivités portugaises de France.
Alors, CCPF, hein, c'est tout à l'heure, j'ai dit CCP. Marie-Hélène Vrin, présidente de la CCPF. Alors, justement, pour cette soirée, il faut le faire par mail, contact ccpf@gmail.com. Ni plus, ni
parfait,
moins.
Parfait.
Alors,
voilà.
par rapport à Encanto qui vient de l'avant-opérer, alors, ils ont une particularité, c'est des chants polyphonique.
Exactement.
Avec des femmes.
C'est superbe.
Des voix de femmes. Alors, voilà. Madame la Présidente, il y a deux termes, bien entendu, on va parler de l'enseignement. Alors, un petit bilan du séjour linguistique, là, qui a terminé hier soir, je crois.
Voilà, on est arrivé, il était 10h, à peu près 10h du soir.
Oui.
Alors, une expérience absolument extraordinaire, puisqu'on partait avec 113 élèves de toute l'île de France et des Alpes, avec donc organisé, porté par la CCPF, mais accompagné aussi d'un certain nombre de professeurs, comme Adelino, comme Gilles des Alpes, comme Carlos de Noisy, et puis Fatima. Et donc, ça a été un projet, je dirais, très qualitatif, dans le sens où les enfants perfectionnent leur langue, vivent une expérience absolument extraordinaire de groupe et participent à une multitude d'activités. Ils ont visité une usine de céramique, ils sont allés à la plage, ils ont fait des activités type acrobranche, etc. Et puis, ils ont rencontré aussi une ville jumelée, parce que le Plessis-Trévis est jumelé avec Orenne. Et du coup, il y a eu un véritable échange de l'ensemble du groupe, des 113 enfants, avec les écoles, voire même de Fatima, Et ça, ça a été aussi extrêmement riche et original. Mmh. Donc, les retours des parents, si je puis dire, sont très qualitatifs. Les enfants ne voulaient pas revenir.
Comme d'habitude.
Voilà. et c'est aussi une expérience d'autonomie, les enfants, parce qu'on s'aperçoit quand même que pour les enfants, c'est parfois un peu compliqué de quitter les parents. Mais après, ils sont ravis d'avoir grandi, je dirais, au niveau de la langue, mais aussi sur le plan humain. Et ça, c'est génial. Fatigant, mais super.
Alors, Marie-Hélène Aubrard, il y a une particularité aussi, c'est que les animateurs sont des Portugais, parlent pas français. Bon, il y a toujours les accompagnants pour aider un petit peu, mais ça, c'est très important parce que, bon, c'est, là, ils sont vraiment dans le bain.
Exactement. Il y a des parents qui nous disaient qu'ils sont revenus bilingues. Je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Mais c'est vrai que dans les chambres, au repas, dans les activités, on ne parle que portugais. Et ça, c'est un atout fantastique. Il faudrait qu'il reste plus longtemps pour devenir bilingue, bien sûr. Mais bon, on va y travailler.
Alors, une question qui fâche. D'ailleurs, on a reçu deux mères d'élèves ici dans les studios. Il y a la pétition, d'ailleurs, qui circule toujours. Moi, je l'ai rappelé hier et je continue à rappeler. Les élèves d'aujourd'hui seront les enseignants de demain. Avec la plateforme change.org. Justement, il y a professeur Adeline qui est partie à la retraite, n'a pas été remplacée. Apparemment, il y a des concours qui ont été ouverts, mais soit les candidats n'ont pas été acceptés, soit les candidats n'ont pas accepté les conditions. Donc, je pense que CCPF est attentif à ces questions-là. Et vous avez été pendant plusieurs jours en Portugal avec ce séjour linguistique, mais c'est quelque chose que vous allez accompagner de près, je suppose.
Tout à fait. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle au niveau du suivi des cours. Je pense que la pétition a aussi aidé à forcer le destin, si je puis dire. Il y aura des cours en visio, notamment pour l'établissement Saint-Pierre, de façon à ce que les enfants puissent continuer les cours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle et tout le reste à faire, si je puis dire, parce qu'en fait, il y a vraiment un problème de, à la fois, faire connaître cette langue, mais aussi qu'on se donne les moyens. Et il me semble que là, il y a non seulement l'affaire de la CCPF, mais de la coordination, de l'ambassade, de toute la communauté portugaise. Et moi, je caresse l'espoir vraiment, vraiment, qu'il y ait une mobilisation à très, très court terme pour se poser des très bonnes questions et se donner les moyens de réussir. Parce que là, plus ça va, plus on a effectivement des difficultés.
Mais on est là pour ça également. Marie-Hélène Aubrard, merci. Donc la mairie de Paris, bon, de ce qui concerne justement la conférence Histoire et Mémoire de la Révolution des œillets a plus de place, mais vous pouvez toujours vous inscrire par rapport à la soirée qui va avoir lieu à partir de 18h dans les salons de la tête de ville. Contact ccpf@gmail.com. Merci.
Voilà, c'est gratuit, bien sûr, hein. Mille merci à toi et mille merci à votre radio qui nous accompagne en permanence. Et bienvenue à tous ceux qui se sont inscrits très rapidement parce qu'on doit faire le point, notamment parce qu'il y a aussi un cocktail qui suit. Donc, on a besoin d'avoir précisément les inscriptions. D'autant plus que pour rentrer à la mairie, il faut un document officiel pour pouvoir rentrer.
Voilà, oui, sans oublier la carte d'identité. Marie-Hélène Aubrard, je vous remercie et à bientôt. Alors,
merci. Mille fois. Merci. À bientôt. Au revoir.
E nós voltaremos dentro de um dos minutinhos. Rádio Alfa.
Venham mais cinco, de uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, dê-lhe um apito e põe-no a andar. Dos pés da cinta, já creio que é da quem dá em mar. Não me obrigam a sair para a rua a gritar. Que já é tempo de embalar a trouxa e zarpar. Para Buribaia, para Buribaia. a gente ajuda, havemos de ser mais, eu bem sei. Mas a quem queira deitar abaixo que eu levantei, a bucha é dura, mas dura é a razão que Jesus tem. Só nesta busca não há lugar para os filhos da mãe. Não me obrigo.
Venham mais cinco, uma canção de José Afonso Alame. Bonjour.
Oui, bonjour, Arthur.
Alors, venham mais cinco, mas pourrais dire, venham mais 10, 15, 500 des milliers, non?
Ah, bah écoute, on espère que ça va être le grand rassemblement, cette occasion hein, de fêter, on va dire, les 50 ans de la révolution des AIEX. Ça serait une belle occasion de se réunir, oui.
Ouais, voilà, donc ça va être le 27 avril à Ponto Combo, à 20h, Conservatoire Nina Simone, concert de Sou Alam et Fado avec Thérèse Carvalho. C'est pas pour rien que j'ai passé Venho Mais Cinco, parce que finalement, dans tes compositions, dans ton travail, même au niveau des disques, José Afonso a une importance énorme et la révolution des AIEX, bon, bien que tu l'as pas vécu, mais enfin, c'est important, ça a marqué le jeune homme qui était sous l'âme.
Oui, alors, moi j'ai découvert ça quand même assez sur le tard, c'est-à-dire que j'ai pas eu de transmission parentale. Mm-hmm. Mes parents sont arrivés, pardon, au début des années 60, mon père d'abord, ma mère ensuite. C'est l'histoire de tout un chacun, de tous ceux qui ont vécu l'immigration. Et ensuite, moi je suis né en 1970. En 74, quand la révolution des œillets a eu lieu, mes parents étaient loin de ça. Ils étaient occupés par leur travail. Mon père était maçon, ma mère était femme de ménage. Encore une fois, il n'y a pas grande originalité là-dedans. C'est le destin de beaucoup de Portugais immigrés. Et donc à 4 ans, j'ai pas de mémoire, on va dire, de ce qui a pu être dit autour de moi. Mais à l'âge de 10 ans, je me souviens que on ne parlait pas de ça chez moi. C'est-à-dire que ma mère, c'est une femme qui a ou mon père, mais en tout cas, je parle de ma mère parce que je fais le lien avec le concert qui va avoir lieu samedi prochain. Je vais chanter une chanson de Nino Ferrer qui s'appelle Alcina de Jesus. Et cette chanson-là, elle raconte l'histoire d'une femme qui est occupée à garder des enfants, à travailler au quotidien pour gagner son pain, et qui est très très loin de la connaissance du milieu, on va dire, de ce qui se passe au niveau politique, de tout l'environnement politique portugais de l'époque, et qui passe complètement à côté de la révolution des œillets. Et parce que mes parents étaient illettrés et que ils n'achetaient pas le journal et qu'ils n'étaient pas non plus dans un milieu d'intelligentsia comme ont pu être certains Portugais qui ont des réfugiés politiques qui étaient à Paris par exemple. Donc pour dire à l'âge de 15-16 ans, quand je commence à m'intéresser, quand je découvre Zeca Afonso, quand je commence à m'intéresser à la culture portugaise, quand je commence à visiter Lisbonne, etc., là, je découvre tout un pan de la culture qui m'était jusqu'alors inconnu, et y compris donc la révolution des œillets.
Voilà, bon, et ça c'est la musique, parce que ça t'a marqué, qu'on veuille ou pas, c'est quelque chose d'extraordinaire, et là, bon, on a eu l'occasion de parler plusieurs fois de ça, finalement, on a des racines, des fois elles viennent de loin, on ne sait pas trop d'où elles sortent, mais il y a une réalité. Alors, pour ce 27, c'est le samedi soir à 20h, Conservatoire Nina Simone à Ponto Combo, étant donné que c'est aussi aux alentours de la célébration du 50e anniversaire du 25 avril, et qu'est-ce que tu vas chanter? Ça va être un peu spécial ou pas?
Oui, ça va être vraiment spécial. C'est vraiment orienté Zeca Afonso, bien sûr, mais aussi chant révolutionnaire. Alors, je vais pas chanter Vitor Jara, je vais pas chanter. Je me corrige. C'est pas chant révolutionnaire, mais en tout cas, chanson qui appelle à la liberté. Et par exemple, il y a cette chanson de Nino Ferrer qui est plus une vignette sur l'immigration en lien avec le 25 avril. Mais je chante une chanson de Jorge Moustaki qui a été composé d'abord par Chico Buarque, qui s'appelle Fado Tropical, et donc Jorge Moustaki en a fait une adaptation qu'il appelle Portugal. Et ça me tenait à cœur de faire le trait d'union aussi avec la communauté, je vais l'appeler comme ça, la communauté française, on va dire, les autochtones de Ponto Combo, voilà, qui sont invités aussi à cette célébration et qui méconnaissent sûrement. Et peut-être que le 50e anniversaire de cette révolution est une très belle occasion justement pour le français, on va dire, d'accéder à une partie de l'histoire portugaise qui se dévie un peu de ce qu'ils connaissent, à savoir, j'ai parlé de la condition sociale de mes parents, le père maçon, la mère femme de ménage. Aujourd'hui, on connaît la musique du Portugal à travers le fado, on connaît les grandes capitales, quoi, du moins les grandes villes, la capitale, etc. Mais je crois qu'il y a encore tout un pan de l'histoire et de la culture portugaise qu'on ne connaît pas en France. Et je crois que il y a un effort, une orientation qui est faite par les associations, par aussi certaines institutions. Je sais que Sciences Po a organisé un colloque autour du 25 avril, et je trouve que c'est une belle. Alors pour le coup, je reviens au récital. Mmh. Il y a aussi, bien sûr, je vais mettre une chanson ou deux à moi, qui ont à voir avec comment moi je perçois l'immigration, par exemple, une chanson qui s'appelle Fragmentos de Portugal. Je vais chanter aussi José Varley, dont j'ai déjà parlé ici à plusieurs. Voilà, il a un poème qui est en hommage à Albert Cunhal, et donc je l'ai mis en musique, et c'est un très beau poème, très très fort, très à la fois dans l'être et aussi voilà dans l'image. C'est vraiment très beau.
Voilà. Non, mais
je vais chanter je vais chanter aussi Ermelinde Duarte, qui a chanté au Magaiote, Somos Livres. Voilà, donc il y a tout un répertoire qui est autour de la révolution, de la liberté aussi.
Voilà. Et à propos d'Albert Cunhal, il a été protégé, il a vécu clandestinement un certain temps à Montreuil-sous-Bois, justement. Mais vous voyez, tu vois, l'histoire vraiment, elle est faite de coïncidences et des bonnes
merci
coïncidences.
Merci de me l'apprendre. Ah oui, je ne savais pas. Ah ouais.
Ouais. Solam, merci. Donc concert le 27, samedi 27 à 20h, Conservatoire Nina Simone, sans oublier aussi le fado avec Teresa Carvalho. Merci bien.
Tout à fait. Et
bon vent et 25 d'avril sempre.
Ouais, sempre. T'embrasse.
Obrigado. Bom, estamos a terminar. Obrigado ao momento ao Manuel Alexandre, que me acompanhou durante duas horas praticamente. Queria lembrar que hoje, às 15 horas, vai ser projetado o filme dos Santos, Les Mains Invisibles, o dos Santos que vai estar presente na MJC Leo de Belleville. Hoje, igualmente, e durante todo o dia, aí vai ser na Praça do Châtelet, 50 anos da Revolução dos Cravos, concertos, Sopa de Pedra, Topeira, B Fachada, as exposições, projeções de ateliês, de dança e de música, bom, sem esquecer a gastronomia. Enfim, amanhã, dia 22 de abril, na FNAC Salazar, precisamente, começa a exposição de foto de Alessio de Andrade, Lumière d'Avril, precisamente com fotografias do Portugal pós 25 de abril, e sem esquecer que às 18 horas aí é Mathieu Sapin que vai falar da sua BD Edgar, que nós tivemos a ocasião de entrevistar há muito pouco tempo. Há que referir que esta iniciativa na FNAC Salazar é feita em parceria com a Rádio Alfa. Bem-ajam e espero bem regressar aqui no dia 28.